Mr. Gideon. Bye-bye, baby. Remember, you're my baby. When they give you the eye, and just to show that I care, I will write and declare that I'm on the loose, but I'll stay.
Grande traversée, moi Marilyn, par Michel Schneider. Aujourd'hui, jouer, chanter. Un documentaire, entretien avec Stanley Rubin, Kathleen Hughes, Laurence Schiller et Michelle Williams. Et enfin, la dernière heure de cette matinée, feuilleton Marilyn dernière séance, troisième épisode.
May some dancer. Me, I'm a hippo on 2 feet.
Yes, my 2 feet.
Ah, the sardine bleeds back.
I feel like a walk. Come on, Joe.
Marilyn. Marilyn. Quel est le film? Le scénario qu'il te faut tourner de nouveau. Et dans quel néant s'illumine le néon de ton nom, Marilyn. Avais-tu donc le cœur si large que tu préfères l'au-delà, l'eau si bleue de ta piscine? Oh Marilyn, Marilyn, le talent payé à prix d'or, la beauté en technicolor, et le soleil californien, non, tout cela ne sert à rien quand on voit l'envers du décor. Ça tourne mal, ça tourne court, nos rêves, nos joies, nos amours, l'espoir comme un vieux magazine a glissé de tes doigts, Marilyn. Nos vies ne sont qu'un bout d'essai. Pour qui, pourquoi, Dieu seul le sait. Toi qui connais la fin du film, dis Marilyn, est-ce un baiser?
Joe, let go!
Marilyn.
J'avais 5 ans, je crois. C'est là que j'ai commencé à vouloir devenir une actrice. J'adorais jouer. Je n'aimais pas le monde qui m'entourait. C'était un monde sinistre, mais j'adorais jouer. C'était comme si vous pouviez repousser vos propres limites, celles de la maison. Et puis, vous pouvez vous créer des situations imaginaires et faire semblant et... Alors même si les autres enfants étaient un peu lents dans leurs répliques à mon monde imaginaire, je pouvais dire « Mais qu'est-ce que t'en penses ? si tu étais ceci ou cela, et moi si j'étais celle-ci ou celle-là, c'était merveilleux. C'était du jeu, vraiment, du plein jeu, du vrai jeu. Quand j'ai su que cela s'appelait jouer, être acteur, je me suis dit, c'est ça que je veux être. On peut jouer. Mais ensuite, on grandit et on se rend compte que jouer, tout le monde rend ça très difficile pour vous. Quelques-unes de mes familles d'accueil m'envoyaient souvent voir des films pour m'éloigner de la maison. Et alors, je restais toute la journée jusqu'à la nuit au cinéma. Devant moi, en gros, sur l'écran si grand, il y avait un enfant tout seul et j'adorais regarder ça. J'aimais tout ce qui me bouleversait là sur l'écran. Et je ne manquais rien de ce qui arrivait. Et en plus, il n'y avait pas de pop-corn.
I want to be, so anyone can see that I belong to you and you belong to me. Anyone can see I love you, anyone can see I care. The way I hold your hand and smile in your direction tell the world my heart is filled with nothing but affection.
Vanessa Paradis. Qu'est-ce qui vous touche en elle aujourd'hui, je veux dire?
Je sais qu'il y a une image qui me bouleverse, moi. C'était bien avant qu'elle ait des rôles avec des scènes, avec du texte ou quoi. C'était, je crois, c'est les femmes du chorus. Ou simplement... c'est la chanson « Everyone can see, I love you ». Elle chante ça. Elle a une grande, une espèce de grande tunique noire. Et tout son visage est un sourire. Tout son visage et sa gestuelle de corps est offerte à quelque chose de positif. Alors que tout ce qu'elle a vécu sont des choses dramatiques depuis qu'elle est née. Et ça n'en finit pas dans sa vie de tous les jours. Mais c'est vraiment un emblème d'espoir. Même si ça s'est très mal terminé. Mais j'ai l'impression que, en tout cas, dès qu'elle était en public et qu'elle faisait son métier ou qu'elle répondait à des questions, il y avait toujours quelque chose de si lumineux pour quelqu'un qui aurait pu être profondément sombre. Et alors, bien sûr, il y a plein de moments où ses yeux tristes reviennent à la surface. Ça peut pas s'en aller. Mais je sais que cette image-là, en plus, c'est très vulnérable d'être sur scène et de chanter. C'est de l'acrobatie, c'est comme de marcher sur un fil. À tout moment, on peut se tromper de mots, on peut chanter faux, on peut se prendre les pieds dans le pan de sa robe. Et elle fait ça avec ses yeux lumineux et un sourire offert, quoi. C'est-à-dire que c'est ça, c'était pas simplement « je suis belle et regardez-moi », mais c'est « je vous le donne », quoi. C'était tout le temps tellement offert.
How high do we go?
What? Oh, yeah. Hey.
How old is she?
Oh, little girl? 6 or 7. She's a good kid. You won't have any trouble with her, will you, Nell?
No, I don't think so. Why should I?
Oh, you shouldn't. I only asked.
I'm very grateful to you, Eddie. And I've wanted a job.
You know, there's a lot of kids stay in this hotel. We could run this thing into a regular thing. You think you'd want that, Nell?
I suppose so. Didn't we pass 8?
Oh, yeah.
Qu'est-ce que vous diriez de sa voix parlée qui est littéralement bouleversante?
Oui, d'une douceur absolue. Ouais. D'une douceur absolue et alors ça dépend, il y a sa voix dans les films, ça c'est une chose, elle dit le texte qu'on lui a écrit, puis il y a la voix dans les interviews, je crois que c'est ce qu'il y a de plus tendre et de plus bouleversant. Elle parle tout doucement, elle on sent qu'elle dit peu de mots, qu'elle dit des choses, mais qu'elle a certainement pas confiance en elle, et puis certainement peur de la manière dont les choses sont interprétées. Et voilà, elle parle, je ne peux pas l'imiter du tout, elle parle doucement, et le volume de sa voix et les intonations sont assez, pas du tout linéaires, mais en tout cas très égales. Et puis il y a quelque chose d'enfantin parfois qui ressort spontanément si elle se met à rire. Et ça vient vraiment du plus profond de sa cage thoracique. C'est un rire comme ça, vraiment enfantin.
FBI, son, because you're a good boy.
Sa voix parlée est absolument bouleversante et sa voix chantée, c'est une chanteuse de jazz, hein. Et le vibrato et le velours qu'il y a dans sa voix, c'est quelque chose de magnifique. Vous mettez une chanson d'elle comme ça, même sans la voir, parce qu'on parle toujours d'elle, de sa beauté, de sa féminité, de l'image de Marilyn. Mais vous écoutez Marilyn, juste la voix, sans l'image, si ça vous touche, mais c'est incroyable. Et je comprends pas comment les gens ont passé leur temps à répéter les mêmes choses sur son image de fausse blonde idiote, et sans jamais s'arrêter à le talent de la chanteuse et le talent de l'actrice.
François Guérif.
Alors, il y a un film qui est un film noir. Bon, elle n'a pas le rôle principal, c'est vrai qu'elle est très intéressant. C'est Le démon s'éveille la nuit de Fritz Lang, où elle joue le rôle d'une ouvrière dans une poissonnerie, où elle a cette espèce de naïveté, de fraîcheur avec l'acteur qui incarne son mari, face au couple plus sombre, au trio plus sombre, incarné par Robert Ryan, Barbara Stanwyck et Paul Douglas. Mais où elle est parfaitement crédible en ouvrière qui écaille des huîtres.
Elle avait travaillé dans l'aéronautique à la chaîne, quelques temps.
Elle est très bien. Et Fritz Lang dit d'ailleurs, bon, Fritz Lang c'est pas un tendre avec personne, il dit qu'il a eu beaucoup de problèmes avec Marilyn Monroe, comme finalement, et là, tous les témoignages se rejoignent, sauf Huston, qui est, lui, s'en plaint jamais. Il dit qu'elle arrive tout le temps en retard. Pourtant, à l'époque, c'est pas encore une vedette, mais qu'elle arrive en retard, qu'elle a sa coach sur le plateau, ce qui est, et qu'elle est terriblement insécure. C'est-à-dire qu'elle est terriblement paniquée, en fait. Qu'elle est pas sûre d'elle du tout, que elle se rend compte de sa présence physique, de ce qu'elle peut engendrer, mais elle a peur. Et c'est là où il raconte cette histoire magnifique, je trouve, où il explique que Barbara Stanwyck, qui elle était en tant que star sur la pente descendante, au lieu de prendre ombrage, puisque les journalistes qui venaient, les gens lui disaient, la star du film, c'est Barbara Stanwyck, donc on va vous ménager un interview, et les journalistes disaient, on vient pas voir Barbara Stanwyck, on vient voir la fille au gros sein. Et donc, et Fritz Lang dit, n'importe quelle actrice en aurait pris ombrage. Et il dit au contraire, Barbara disait, mais c'est normal, c'est une actrice qui monte. Il raconte, Fritz Lang, que Barbara Stanwyck l'a pris quasiment sous son aile. Et à chaque fois qu'elle était paniquée dans une scène, qu'elle lui donnait confiance.
Dress is gonna fit me perfectly.
Good.
Do you like dancing?
When I'm in the mood.
I love dancing. When I'm dancing, I just kind of forget myself. Does Jerry ever get jealous when you dance close with a fellow?
I haven't asked him.
All Jerry needs is somebody to look after him.
I'm tired of looking after men. I want to be looked after.
Weren't you ever in love, mate?
Il y en avait un qu'elle adorait. Alors si, que j'ai aussi interviewé. Alors moi, 5 fois, un type absolument passionnant, c'est Jean Negulesco.
Oui.
Jean Negulesco qui avait tourné Comment épouser un millionnaire, qui à mon avis, avait été amoureux de Marilyn, parce que quand il en parlait, il avait 90 ans, il frémissait de tout son corps, il se rappelait. Sa petite robe, elle est arrivée au dîner, disait-il, avec sa petite robe, on avait l'impression qu'elle avait été cousue sur elle. Et il était très gentil avec elle, et je veux vous raconter quelque chose que j'ai pu vérifier, qu'on a publié dans la revue du cinéma, c'est que les deux plus grandes scènes, quand même, de La rivière sans retour, c'est pas Preminger qui les a tournées, c'est Jean Negulesco.
Oui.
Et c'est Jean Negulesco qui les a tournées, parce que ils étaient arrivés à un tel point de friction avec elle et Preminger, il m'avait raconté que Zanuck, quand il avait vu le premier montage de La rivière sans retour, il a dit à Preminger, non mais attends, j'engage deux monuments sexuels qui sont Robert Mitchum et Marilyn Monroe, ils se rencontrent jamais, quasiment. Donc, la scène de la grotte, la fameuse scène quand il la réchauffe, qu'elle est nue sous la couverture. Et puis la scène, surtout, quand elle chante couchée sur le piano, qui est quand même une scène magnifique, où on a fait, et la pantoufle qui tombe, c'est Negulesco. Et d'après ce que j'ai cru comprendre, en effet, dans différentes interviews, ce réalisateur-là avait su établir des rapports de complicité et de gentillesse qui fait qu'ils s'adoraient tous les deux et que il n'y avait aucun problème sur les tournages.
Look.
Yes.
Didn't you bring your glasses?
What glasses?
Don't you wear glasses?
Oh, damn it, no. Whatever gives you that idea?
You've got the most peculiar vision I ever saw.
Why do you say that?
Because you're reading that book upside down.
But I'm no such thing.
Not you, the book.
Silly, though.
What is it, astigmatism?
No, just blind as a bat.
Me too.
Oh, really? Then why aren't you wearing glasses?
I am wearing glasses.
Dans un autre film qui s'appelle Troublez-moi ce soir, je pense que c'est sans doute le seul film de sa carrière où elle est vraiment un personnage autre que celui de Marilyn Monroe. C'est-à-dire que dans tous les films, elle finit par jouer Marilyn Monroe. Mm. Alors que là, elle arrive à se mettre dans la peau d'une autre femme. Je pense que Niagara est un peu comme un sommet pour elle, sur à la fois par rapport à son personnage, où on se rend compte, premièrement, c'est une femme qui ne peut appartenir à aucun homme. C'est une femme qui a de multiples visages, c'est une femme qui est insécure, qui est troublée dans la tête, qui est déséquilibrée. Et en même temps, c'est une femme d'une beauté extraordinaire. Elle est agressive sexuellement. Donc, il y a, et d'ailleurs, Henri Hathaway disait que il y a un fameux travelling où il la suit, il l'avait cadré, j'allais dire, du bas du cou jusqu'au milieu des jambes. Il y a un travelling très long sur sa démarche féline. Et puis, bon, bien sûr, il y a Les Misfits qui est un film sur elle et avoué être sur elle.
C'est dans les deux rôles, dans Troublez-moi ce soir et dans Niagara, elle est une meurtrière, dans le premier une quasi-meurtrière, puisque c'est une babysitter qui ne s'occupe pas de l'enfant qui lui est confié. Et...
Oui, mais il y a une grosse différence, c'est que le personnage de Troublez-moi ce soir est un personnage quand même assez touchant. Mmh. C'est un personnage qui est déséquilibré, qui est folle, quoi. Bon. Vous allez me dire que dans Niagara, le personnage n'est pas non plus très équilibré, mais c'est un petit peu différent, je trouve, dans le sens où, dans les rapports avec les gens extérieurs dans Niagara, il y a une vraie agressivité, une vraie fourberie, une vraie fausseté, ce qui n'est pas le cas dans Troublez-moi ce soir.
Those eyes say fingers of flame down my spine. The same old witchcraft when your eyes leave mine. The same old tingle that I feel inside.
That's mine.
Angel. She's just a gal who works in a salon.
Look at her gleam in there.
Starts
so pale and white.
And down I go.
Et puis il y a aussi Joshua Logan avec lequel elle a tourné Bus Stop. Joshua Logan émettant des doutes, écoutez-le, émettant des doutes sur les qualités de Marilyn Monroe.
Marilyn Monroe, elle est incapable de jouer, non? J'ai dit à Strasberg. Je ne l'avais vue que dans ces films drôles et superficiels où sa respiration était haletante et où elle était très sexy. Lee Strasberg m'a répondu que Marilyn était la meilleure, avec Marlon Brando. Vraiment, j'ai dit. Je lui ai demandé d'attendre au téléphone et j'ai appelé Hollywood d'une autre pièce pour leur dire « Je vais tourner Arrêt d'autobus avec Marilyn Monroe ». Elle était pleine d'idées. Elle avait parfaitement appris l'accent du Sud. C'était une sorte d'accent montagnard et elle le parlait avec une facilité déconcertante. Elle avait beaucoup travaillé. Quand on nous a envoyé des esquisses pour les costumes du spectacle qui figurent dans le film, elle a dit qu'elle voulait surtout que les choses aient l'air vraies. J'ai réalisé qu'elle était réellement une fille formidable, avec beaucoup d'imagination. Elle était amusante et elle savait jouer. Elle était une actrice aussi sérieuse et compétente qu'on pouvait le souhaiter. Elle n'était pas du tout stupide, elle était brillante. Le seul problème, c'est qu'elle n'était pas très cultivée.
For you're the lover I have waited for, the mate that fate had me created for. And every time your lips meet mine, darling, down and down I go, round and round I go. In a spin, loving that spin, I'm in under that old black magic called love, 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 love.
Elle a fait des grands films, hein. Ça a commencé avant les Misfits.
Non, mais dans les Misfits, on sent que Arthur Miller lui a demandé de jouer leur divorce qui était en cours, enfin leur séparation, et qu'il l'a un peu enfermée dans ce rôle-là. Et elle s'en dégage petit à petit dans le film où elle devient un personnage tragique qui dit aux hommes leur vérité. Quand elle leur dit murderers à la fin de la dernière scène du film parce qu'il tue ses animaux pour faire de la nourriture pour animaux, il y a toute l'histoire de Marilyn qui revient dans ce... Bah, cette violence-là,
oui,
cette violence qui lui est faite et qu'elle retourne contre les hommes.
Bah, je connais pas leur histoire par cœur et de ce qui nous revient, ça a été compliqué, mais lui, il a connu la Marilyn privée avec ses tourments, avec ses doutes, avec ses envies, avec sa fragilité et ses forces. Et il a écrit une histoire qui, elle a dit qu'elle se sentait pas heureuse dans ce rôle. Peut-être qu'elle avait peur d'être mise à nu. Il y a beaucoup de choses qui lui ressemblent dans ce film. Il y avait aussi qu'elle jouait en face de Clark Gable, qu'elle a toujours rêvé en père, mais là il jouait son amant. Donc et les hommes ont toujours voulu être son amant. Il y avait quelque chose de difficile certainement à accepter là-dedans. Et puis voilà, je pense qu'il y avait beaucoup de choses dans ce film. Il y avait la vérité, et il y avait aussi, même quand on joue au cinéma et qu'on joue pas sa propre vie, sa propre personnalité, on y met tellement de soi qu'on finit par se donner, se perdre dans une vérité qui est un mélange de votre propre vérité et les choses qui sont dans le scénario, qui sont dans un personnage. Et que quand on joue, on se laisse avoir par nos propres émotions, quoi, parce qu'on croit à ce qu'on dit, ce qu'on fait au moment de le faire. Donc, elle est dirigée par John Huston, un géant et un homme si intelligent en qui elle avait énormément confiance, donc elle a dû ouvrir encore plus ses vannes d'émotions.
I'm John Huston.
Je suis John Huston. J'ai eu la chance de diriger le premier film important de Marilyn Monroe et son dernier film achevé. Marilyn avait un impact étrange et fascinant sur le monde. Encore aujourd'hui, dans la trame des grands événements, son image douce et sensible continue de nous apparaître. À sa mort, on a fait la chasse aux coupables et aux méchants, comme si on ne pouvait voir que la vie est une chose injuste et pleine de cruauté, et que nous apercevons le désespoir chez les autres trop tard. Le courage ne suffit pas. Si le courage est de se montrer à l'écran au mieux de son art, alors oui, Marilyn fut courageuse. Car elle se noyait trop souvent dans des crises de panique, des crises incessantes de désarroi.
Ça avait commencé à Los Angeles et ça a continué après. Une sorte de recherche sans fin de son identité.
Il y a des séquences qui me font une peine folle.
George Kegeman.
Dans le scénario des Misfits, Arthur Miller, qui a écrit ce scénario, la livre en quelque sorte au désir de trois hommes. Et ce qui me fait mal, c'est la candeur avec laquelle le personnage de Marilyn n'a pas l'air de s'apercevoir que pour chacun de ces trois hommes, elle est un objet. Par exemple, une scène très douloureuse pour moi, c'est celle où Elie Wallach, alors que Marilyn est tout entière absorbée par un jeu, faire bondir une balle sur une raquette, la scène dans laquelle Elie Wallach lui tape sur les fesses en même temps. Il y a un tel mépris machiste dans cette scène que, bien que ce soit pas très difficile à comprendre, pour un homme qui aime Marilyn, son cœur s'étreint, il n'y a aucun doute là-dessus. Maintenant, des scènes où elle est à la fois belle, drôle, comme dans certains Lem Show, ou encore une fois, dans les films où elle donne l'occasion qu'elle va succomber, comme dans Sept ans de réflexion, où on attend avec ce pauvre Tom Ewell, auquel elle se contente de confier ses sous pour qu'il les mette dans son réfrigérateur, eh bien, on est toujours auprès d'elle. Dans le film qui n'est pas son meilleur, Le milliardaire avec mon temps, quand elle chante « My heart belongs to daddy », on a envie d'être son père, sachant bien que dans ce cas-là, si baby veut dire parfois fiancé ou ma petite amie en anglais, daddy peut avoir toutes les significations incestueuses du monde. Il n'y a pas une scène particulière que j'aime dans la filmographie de Marilyn. Ce que j'aime, c'est Marilyn tout entière, avec ses blessures, ses rires, sa volonté de comprendre et finalement sa chute.
Pardon me. Are you the janitor's wife?
No. I'm the landlord's wife.
Oh, I'm sorry, Mrs. Scott. I had no idea. My name is Roberta Stevens. Jim just called me about the apartment.
Oh, well, there must be some mistake. My husband's renting it to somebody he knew in the Army.
Well, that's me. I was away. Jim and I were stationed in Paris together.
Just a minute.
Claude Jean-Philippe.
La voix de Marilyn est incomparable. Parce que là, il y a son être encore. Là aussi, le micro est quelque chose d'essentiel. Que Bresson... ne demandez pas à voir ces acteurs, ils demandaient à les entendre au téléphone, et c'est pas pour rien. C'est pas pour rien, je crois qu'on est... Parce que la voix est la chose qu'on ne peut pas contrefaire. Tout le reste, on peut le contrefaire. On peut maquiller, on peut... La voix est quelque chose qui est complètement la personne même, quoi. Quand elle chante Diamonds, dans Les Hommes préfèrent les blondes, le producteur croyait pas qu'elle pouvait chanter. Ce qui est quand même inouï. Et évidemment, elle a chanté. Et évidemment, ça a donné ce qu'on voit sur l'écran. Mais il y a certaines choses qu'elle ne pouvait pas faire. Dans le début de la chanson, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'opéra, quoi. Bon, et évidemment, c'est pas sa voix qu'on entend tout à fait au début. Et puis ensuite, c'est elle, bien sûr. Then someone broke my heart in Little Rock. So I up and left the pieces there. Like a little lost lamb I roamed about. I came to New York and I found out that men are the same way everywhere. I was young and determined to be wine and dine and ermine, and I worked at it all around the clock. Now one of these days in my fancy clothes I'm a-going back home and punch the nose of the one who broke my heart. The one who broke my heart. The one who broke my heart in Little Rock. Little Rock, Little Rock. Little Rock. Alors revenons à la caméra et elle. Enfin, il y a des crétins qui disent que la caméra aime certains visages. Bon, c'est pas vrai. La caméra est bête comme ses pieds. Mais la caméra voit ce que nous ne voyons pas, nous, parce que nous sommes complètement encombrés de préjugés, de présupposés sur les gens. La caméra voit ce que nous ne voyons pas. Et la caméra a vu tout de suite qui elle était. ne pouvait pas se tromper. Ne pouvait pas
quoi, plusieurs témoins disent, notamment Sartre, il disait, bon, ce qui est extraordinaire chez elle, c'est pas son visage qui n'est pas d'une grande
absolument
originalité,
pas.
C'est la capacité qu'elle a de renvoyer la lumière, quoi, quelque chose d'un éclat.
Non, c'est intérieur, c'est complètement intérieur, et c'est là qu'on entre dans un domaine qui est difficile, parce que moi, je suis parti de des cinéastes que j'adore, que je continue à admirer. Mais plus je vais, plus je me dis qu'on n'invente pas Cary Grant, que la caméra est documentaire et qu'il n'y a pas de direction d'acteur.
Oui.
Non, il n'y a pas de direction d'acteur. Wilder, tout Wilder qu'il est, n'a pas inventé Marilyn, n'a pas inventé l'héroïne de certains Lame Show. Il fallait, d'ailleurs, il le sait bien, il a suffisamment dit, au-delà de ses colères, au-delà de du fait qu'elle est absolument rendue fou tout le monde autour d'elle par ses... Mais dans sa logique, enfin, là encore, il y a sa logique. Elle rate 70 prises pour dire la chose la plus simple du monde. La plus simple du monde. Et puis soudain, elle en une prise, elle fait des choses extraordinairement difficiles. Et elle s'étonne qu'on s'étonne, quoi. Elle s'étonne que... voilà... Il y a cette espèce de vie intérieure, la caméra voit des vies intérieures.
Oh. As long as the guy's a millionaire, for a kid from a small street, I did very well on Wall Street, though I never owned a share of stock. And now that I'm known in the biggest banks, I'm going back home and give my thanks to the one who
the one who broke my heart,
the one who broke my heart. In Little Rock.
Vous savez, beaucoup de gens ont des problèmes bizarres qu'ils ne veulent pas montrer. Moi, l'un de mes problèmes est tellement évident, je suis en retard. Je suppose que les gens pensent que quand je suis en retard, c'est par une sorte d'arrogance. Et moi, je pense que c'est le contraire de l'arrogance. Je crois aussi que je ne suis pas dans cette espèce de précipitation de la grande Amérique. Vous savez, vous devez avancer, toujours plus vite. Et vous ne savez pas pourquoi. Le plus important, c'est que je veux être toujours bien préparée quand j'arrive sur un plateau. Pour donner une bonne représentation, ou en tout cas, le meilleur de mes possibilités. Un tas de gens peuvent être toujours à l'heure et ne rien donner sur scène. Un jour, Clark Gable a dit de moi, quand elle est là, elle est là. Elle est là toute entière, dans le travail.
But I think your mother'd rather went to sleep now.
Are you tattooed?
No. Are you?
Not now, but I'm gonna be when I grow up. I can turn out my own light.
Of course you can.
But I'm not sleepy.
You will be when the light's off. The Sandman will come and pour sand over your eyelids.
Not sand. Cookie crumbs.
Good night, Bunny.
I'm hot.
There, that let in some air.
Can I have my elephant, please?
Now, you turn off the light, Bunny.
Bernard, comment?
Good night.
Good night.
Je pense que c'est dialectique avec son ambition de comédienne, parce qu'elle a une énorme ambition de comédienne. Elle veut devenir la grande comédienne. Et elle est en but avec le mépris et la condescendance du milieu hollywoodien. Je veux dire, il y a cet épisode assez cruel quand même, d'une espèce de conférence de presse ou de discussion avec des journalistes, où à un moment donné elle exprime son souhait d'interpréter un rôle dans une adaptation de Dostoïevski, et tout le monde éclate de rire. Et elle en est évidemment fortement blessée. Et pour moi, il y a quelque chose que je trouve extraordinaire, quoi. C'est qu'elle quitte Hollywood fin décembre 54, au moment où la petite orpheline de Los Angeles a enfin la reconnaissance, le succès, la gloire, l'argent. Il y a une grande fête qui est donnée pour elle en novembre 54. Et elle part. Elle quitte ça, elle quitte ce terrain pour aller effectivement à l'école, et assez modestement, parce que quand on voit toutes les photos, il y en a quand même beaucoup, elle est toujours une vraie étudiante à l'Actor Studio. C'est-à-dire, elle n'est pas au premier rang comme une star. Quoi. Elle est comme une vraie et une bonne étudiante. Quoi, parce qu'elle lève la tête pour essayer de bien voir. Comme ça, elle est très attentive. Et ça, c'est, pour moi, c'est à la fois fascinant et quand même très mystérieux. Parce que c'est rare. Quoi. Elle pouvait s'installer dans une espèce de rente de situation en 1954. Quoi. Elle avait les studios qui, enfin... Alors, c'est vrai qu'elle mène ce combat contre les studios. On voit que c'est un combat permanent, quoi, jusqu'au bout. Elle ne les aime pas.
Sam Chart, vous êtes aujourd'hui psychanalyste ici à New York et vous avez été à l'Actor Studio pendant plusieurs années. Vous avez étudié, enseigné et été le doyen là-bas, n'est-ce pas? Oui, à l'Actor Studio Drama School. En fait, il y avait deux organisations. The Actor Studio, la fameuse institution, était à un endroit. Et The Actor Studio Drama School, qui avait été créé à l'Université de New York, dans un endroit nommé la Nouvelle École. Donc le nom correct, c'était l'Actor Studio Drama School de la Nouvelle École de l'Université. C'était une entité totalement distincte de l'Actor Studio. L'Actor Studio Drama School est un programme universitaire commercial. Et les étudiants payent pour en faire partie. Mais ce programme est administré par l'Actor Studio et il en suit les principes, la théorie de l'enseignement en matière d'interprétation de l'Actor Studio, de Lee Strasberg. Revenons à Marilyn et à sa pathologie. Que pensez-vous de sa pathologie en tant qu'analyste? Était-ce un handicap ou une ressource pour jouer, ou bien les deux? Les deux, surtout dans son cas et d'une certaine façon, si elle n'était pas morte. D'abord, tout le monde souffre, et pas que les artistes. Chez certaines personnes, la souffrance conduit à quelque chose de productif, tandis que chez d'autres, la souffrance ne mène qu'à la souffrance. Freud lui-même a dit que le talent artistique, est un mystère. Pourquoi? C'est comme l'alchimie. Pourquoi certains sont capables de tirer quelque chose d'utile de leur souffrance, ou même de beau? Et pourquoi la plupart des gens vivent leur vie en étant torturés? Qui sait? Qui sait réellement? Vous pouvez dire que c'est de la volonté, un but, ou une combinaison des deux? Vous savez que les gens ne sont pas le produit d'une seule chose, mais sont influencés par beaucoup de choses. Donc je pense que Marilyn Monroe n'aurait pu être ce qu'elle a été sans les problèmes qu'elle avait. Et si elle n'avait pas eu ces problèmes, elle aurait probablement eu une vie meilleure, en tant que personne. D'une certaine façon, je ne pense pas que la carrière qu'elle a eue compense la souffrance qu'elle a vécue. Je vais vous raconter une histoire que j'ai entendue. Ce n'est donc pas quelque chose que j'ai vécu personnellement, mais les gens qui étaient là-bas avec elle m'ont dit qu'elle s'asseyait calmement et restait extrêmement modeste. En fait, il y a une histoire très connue qui raconte qu'après l'une des séances au studio, quelques acteurs sont sortis pour prendre un café. Et elle s'est approchée de quelqu'un pendant qu'ils étaient assis autour de la table. Elle lui a dit « Bonjour, mon nom est Marilyn », comme s'il ne savait pas qui elle était. Ça a été vu comme quelque chose de très honnête. D'une certaine manière, bien qu'elle était consciente de sa réputation, elle ne se comportait pas comme une diva dans ses relations personnelles. Peut-être parce qu'elle ne pensait pas être Marilyn Monroe. C'est bien là le problème de Marilyn Norma Jean. Je pense que quand elle était là-bas, elle était peut-être d'une certaine manière plus Norma Jean. Vous savez, elle pouvait être cette Marilyn quand elle le devait, ou qu'elle choisissait de l'être, Mais dans la vie normale, c'était Norma Jean.
Marilyn Monroe was a character.
Marilyn Monroe était un personnage. Que vous souvenez-vous d'elle en tant que corps? Que pensez-vous de son image physique? J'étais juste un gamin à cette époque, mais j'étais fasciné par sa beauté. Bien sûr, il y a beaucoup de belles femmes. Mais la célébrité, plus la beauté physique, c'était quelque chose de magique. C'est le cas de ces personnes qui possèdent une sorte d'aura. Quand on rencontre quelqu'un de connu, qu'il soit beau ou pas, on sait vraiment lorsque l'on est en présence d'une icône. On est comme fasciné. Ça devient une expérience magique. Dans son cas, elle était vraiment très belle. Elle était plutôt grande, et il me semble à cette époque, elle avait une extraordinaire, d'autres personnes l'ont dit aussi, elle avait une peau extraordinairement blanche, luminescente. Je veux dire que même sans aucune espèce de glamour, elle était vraiment belle. Même au studio, sans maquillage? Oui, elle était belle. C'est pourquoi elle est devenue une si grande icône. Quand est-ce que vous pensez qu'elle est devenue une grande actrice? De mon point de vue, sans prendre en considération tout ce qui a pu être dit sur les Strasberg, je pense que le résultat de leur travail avec elle peut être vu sur l'écran. Après qu'elle ait étudié avec eux la qualité de son travail, c'est comme s'il y avait deux personnes. C'est devenu totalement différent et je pense que vous le voyez pour la première fois dans Bus Stop. Il y a beaucoup d'histoires qui circulent sur les difficultés que Joshua Logan, le réalisateur du film, a eues avec elle. Pareil pour tous les gens que je connais qui ont eu affaire avec elle. Vous le savez, il y a eu beaucoup de littérature sur cet aspect-là. Elle était de toute évidence une personne difficile. Mais être un acteur, c'est quelque chose d'étrange. En tant que personne réelle, vous êtes ce que vous êtes, mais quand vous montez sur scène ou apparaissez sur écran, alors tout ce dont vous êtes capable, aussi magique que cela soit, ce sera complètement différent de vos problèmes d'être humain. Et donc, la vraie raison pour laquelle nous sommes là, en train de parler d'elle, c'est à cause de ce qui se passe à l'écran. La vraie femme, qui vit sa vraie vie, en fait, ça n'intéresse personne. La seule raison pour laquelle tout le monde parle d'elle, 50 ans après sa mort, c'est pour ce qui se passe quand elle apparaît à l'écran. C'est comme si vous regardiez un Michel-Ange ou un Picasso. Personne ne prête attention au commérage sur leur vie. C'est l'accomplissement artistique qui nous capte. Et les Strasberg ont réellement fait d'elle une grande actrice, je pense. Pensez-vous qu'elle aurait pu ou dû être une actrice de théâtre? Elle n'a jamais joué dans une pièce. Tout d'abord, je n'ai pas moyen de savoir ce qu'elle aurait pu faire. Elle est morte à l'âge de 36 ans. Si elle avait vécu jusqu'à 46 ans et si elle avait travaillé dur, qui sait ce qu'elle aurait pu faire? Mais il y a une grande différence qualitative entre jouer au théâtre et jouer au cinéma. Évidemment, il y a des gens qui font l'un et l'autre très bien. Il y a des gens qui ont une énergie naturelle pour jouer au théâtre et d'autres pour jouer au cinéma. Ces personnes sont totalement différentes. Car si vous êtes un acteur de théâtre et que vous vous mettez à jouer pour le cinéma, vous devrez diminuer votre énergie. De fait, pendant que je vous parle, je projette beaucoup d'énergie vers vous. L'acteur de cinéma, ou si ceci devait être montré au cinéma, ce serait beaucoup plus comme cela, très très intime, de la basse énergie. C'est quelque chose de difficile de se comporter naturellement quand une caméra vous filme. La plupart des gens, lorsqu'on les prend en photo, sont très conscients d'eux-mêmes. Quand vous pensez à ce qu'un acteur de cinéma est en train de faire avec toute cette équipe autour, tout ce matériel, c'est incroyablement bizarre. Que les acteurs soient capables de se comporter comme vous le voyez à l'écran, ils ont l'air si intimes. Vous savez, toutes ces scènes au lit, on dirait qu'ils sont seuls, mais ils ne le sont pas. Il y a 20 personnes autour d'eux, des lumières, des caméras. C'est quelque chose de fou. Comment est-ce possible de se concentrer? D'une certaine manière, c'est pareil pour ce micro qui est devant mon visage. Si je me concentre sur vous, alors le micro devient moins important et vous, vous devenez plus important. Et c'est cela le talent de l'acteur, Comment être capable de rester concentré sur et avec son partenaire de scène plutôt que d'être distrait par toute cette technologie. Mais c'est destructeur.
Lee Strasberg.
Marilyn Monroe a travaillé dans ma classe et ensuite avec d'autres professeurs à l'Actor Studio. Je dois dire qu'au début, on a pensé, qu'est-ce que c'est que ça, une grande star qui veut apprendre le métier d'acteur? Mais très vite, on a vu qu'elle s'y mettait tout entière, qu'elle reprenait tout à zéro. Les qualités qu'elle a montrées sont impossibles à décrire. Et je pense que le public n'en voit qu'une toute petite partie à l'écran.
Oh, good morning, Mr. McKinley.
Good morning, Harriet. Bring in your book and the mail.
Yes, Mr. McKinley.
Well, what have we got for today?
11 o'clock appointment with Mr. Gallagher of personnel. 1 o'clock luncheon with a representative of the Blakewell Paper Company.
I'd like some coffee, dear.
Yes, Mr. McKinley. Then there's your tailor, the barber, the man about those shirts you ordered, and don't forget your pills.
What the devil is this?
I don't know, sir. I didn't have time to open it.
Yes, Mr.
Do you think she was being manipulated by the studio?
Pensez-vous qu'elle était manipulée par les studios ou qu'au contraire, elle les manipulait?
Well,
Jonathan Kuntz.
Dire que les studios ont manipulé Marilyn Monroe est un fait. C'est ce qu'ils faisaient, c'était leur rôle.
They developed stars.
Ils transformaient des actrices en véritables stars et les utilisaient à leur fin pour servir leur principal objectif, faire des films à succès et gagner de l'argent. Autrement, sans les studios, Marilyn Monroe serait probablement devenue une femme au foyer américaine typique. D'un autre côté, elle a beaucoup apporté à
Hollywood.
Elle leur a permis de faire face à Brigitte Bardot, à Sophia Loren et à tout le cinéma européen. Elle a facilité la transition du Hollywood des années 30 vers la nouvelle façon de faire du cinéma que les studios ont développé dans les années 60. Elle a donc aidé à vendre Hollywood et le cinéma américain au monde entier. Je ne peux donc pas vous dire qui des studios ou de Marilyn a le plus été exploité ou exploitant. Dans les deux cas, Hollywood et Marilyn ont bénéficié de cette relation. Même si, bien sûr, la fin fut tragique. Mais là encore, dans les deux sens, Marilyn a trouvé la mort et le système hollywoodien des studios ne lui a pas survécu. Jusqu'à quel point peut-on dire que Marilyn Monroe était une création des studios d'Hollywood?
Well, in many ways, Marilyn Monroe was a creation and a product of the studio system.
Marilyn Monroe était à la fois une création et un produit du système. Elle était une belle fille, un jeune modèle.
Those kinds of folks by the dozens.
Hollywood les cherchait et les recueillait par dizaines. Généralement, les studios leur donnaient des petits rôles secondaires et c'est ainsi qu'ils découvraient, ou non, des talents cachés. Ensuite, ils transformaient ces actrices en stars. Ces jeunes modèles pouvaient donc signer plusieurs contrats avec des studios différents et tenter leur chance dans les castings et avec des petits rôles. C'est ce que Marilyn a fait. Elle a finalement réussi à percer au début des années 50. Elle avait prouvé, grâce à de nombreuses petites apparitions, qu'elle savait captiver et capter l'attention du public. Une fois qu'elle a démontré ça, elle est devenue la star typique du système hollywoodien. Elle a tourné avec de grands réalisateurs, par exemple dans Eve ou Quand la ville dort. Même si elle ne jouait que des petits rôles, elle était à l'affiche de films importants dirigés par de très bons réalisateurs. Joseph L. Mankiewicz ou John Huston ont réussi à montrer le meilleur de Marilyn. Et c'est ensuite, dans la fin des années 50, début 60, qu'elle a atteint les sommets de la célébrité. Elle a quand même réussi à travailler avec des pointures. Je pense à Billy Wilder, George Cukor. Toutes ces personnes parvenaient à la diriger de façon exceptionnelle et c'est en partie grâce à eux qu'elle pouvait être aussi bonne. C'est ainsi qu'elle a fait ses meilleurs films.
C'était moi, Marilyn, avec Vanessa Paradis, François Guérif, Georges Kiegemann, Claude Jean-Philippe, Sam Chart, Jonathan Kuntz, Bernard Comment. Traduction d'Antoine Lachan. Les paroles de Marilyn sont dites par Valérie Lang. Dans quelques instants, deuxième partie de la Grande Traversée, moi Marilyn.
The next stop is Canal Street.
Entretien avec Laurence Schiller, Michelle Williams, Stanley Rubin et Kathleen Hughes,